19h tout pile, vous avez bien raison d'écouter Campus. Tout de suite, c'est l'heure du sous-marin.
Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
Juste la grande voile!
Politique, société.
Il n'y a pas de voile, abruti!
Culture.
Immersion dans 10 secondes!
Et même du sport.
Take that out. Four forward. Four forward, drift into the right level.
Tout le monde est à son poste?
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin. La quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous, vous êtes bien à l'écoute du sous-marin et nous sommes ensemble pendant une heure pour décrypter l'actualité locale, c'est-à-dire l'actualité angevine. Au programme, ce soir, nous vous diffuserons une interview d'O2N réalisée par Thibaut et Anne-Laure. C'était la semaine dernière du côté de Nantes. Nous vous diffuserons également une interview de Green Tea, un des deux MC du groupe, du collectif plutôt de hip-hop State of Mind, une interview réalisée avec Johanny. Mais comme d'habitude, on commence par un reportage.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Un reportage que, Amandine, tu as réalisé autour du thème « Est-ce que Instagram peut être considéré comme de l'art ?» Eh bien, tout de suite, on va écouter la réponse. Tu vas commencer par un micro-trottoir, Amandine.
Alors, selon vous, peut-on considérer les photographies prises à partir d'un smartphone comme une œuvre d'art ?
Non. Je pense que oui, on peut les considérer comme... parce qu'il y a plein de comptes Instagram ou même des blogs qui sont dédiés totalement aux photos prises avec les smartphones.
Moi, je pense que dès qu'il y a production, il y a une œuvre d'art.
Pour moi, c'est pas ça, l'art.
Je pense qu'aujourd'hui, avec les smartphones qu'on arrive à inventer et la qualité des photos, oui, on peut considérer ça comme une œuvre d'art.
Je pense que oui. Puisque aujourd'hui on est en 2015 et il faut évoluer avec son temps.
Pensez-vous que les réseaux sociaux vitrines comme Instagram ou Pinterest font évoluer l'art ?
Ces vitrines, comme tu dis, ça sert juste à montrer ce qu'on fait aux autres dans la vie, mais c'est pas de l'art.
Il y a beaucoup de comptes qui se développent qui sont pour des photos prises avec les smartphones, mais d'un autre côté, après, avec toutes les modifications qu'on peut apporter avec les filtres et tout ça, c'est pas vraiment la photo de base qui ressort, donc après ça dépend de comment on voit la chose.
C'est pas parce qu'on like une photo ou qu'on la partage que voilà, ça y est, ça doit être une œuvre d'art directement.
Bah ouais, parce qu'on a plus facilement accès à l'art.
Il y a un peu d'art, mais ce sera l'art à travers une photo, mais ça va pas faire évoluer l'art, parce qu'au final, ils vont prendre une photo d'une œuvre d'art, mais la vraie œuvre, elle sera de l'autre côté de l'appareil.
Je pense que ça peut faire évoluer dans un bon sens, en le rendant peut-être plus accessible et moins élitiste.
Amandine, tu ne t'es pas arrêtée là dans ton reportage, t'es allée creuser un petit peu plus loin.
Alors oui, au final, la problématique étudiée lors de cette conférence portait sur la question du portrait avec le selfie. Après l'expo New Portraits de Richard Prince, où il se réapproprie les photos Instagram de célébrités et d'anonymes, il se propose de réinventer le portrait. Je ne vous parle pas du scandale que ça a pu provoquer à New York, évidemment. Pour ma part, je me suis concentrée sur la question du développement de l'art numérique à partir de smartphones. J'ai rencontré deux artistes peintres et professeurs de l'ESBA, Philippe Hurteau et Régine Cole. Pensez-vous que les réseaux sociaux représentent une évolution pour le monde de l'art ?
Je pense que c'est tout à fait à l'image d'une activité artistique accélérée qui justement s'est mise en route et qui est traversée par ça.
Je pense qu'il y a plein d'artistes qui sont tout à fait concernés par ça et dont le travail est influencé par cette nouvelle socialisation, et évidemment, oui, bien sûr.
Dans quelle mesure la photographie à partir de smartphones peut-elle être considérée comme de l'art, selon vous ?
Ça dépend toujours ce qu'on en fait, comment on l'utilise, comment on le traite.
Si un artiste se l'approprie, c'est de l'art.
Pensez-vous que les techniques et ou objets élaborés pour la prise de vue à partir d'un smartphone permettent une qualité supérieure ou équivalente à celle d'un appareil photo ?
Je pense qu'il y a bien plus des qualités ou d'autres qualités qui sont très intéressantes justement plastiquement. On commence à s'habituer à d'autres cadres, d'autres formes, etc. C'est tout à fait exploitable et de plus en plus, et peut-être même que ça s'éloigne de l'appareil photo classique.
Non, certainement pas, mais ça n'a aucune importance. Chaque instrument a sa propre caractéristique.
Y a-t-il, selon vous, donc un avantage par rapport à un vrai appareil photo ?
C'est peut-être justement ce qu'on passe peut-être trop vite sur les choses, qu'on est vraiment dans cette espèce de flux qui fait que,
qui fait qu'on ne prend pas le temps de mettre un appareil photo sur un pied, par exemple, pour faire une vraie mise en scène, etc. En même temps, ça a des avantages énormes aussi, parce que ça fait beaucoup de choses qu'un appareil photo habituel, ou je sais pas comment dire, ne fait pas.
Bah, c'est pas du tout le même contexte, c'est pas le même objectif, c'est pas la même qualité justement, ça c'est pas le même usage en gros.
Et donc pour finir, donc l'air fait généralement appel au sens, aux émotions, à l'intuition, à l'intellect. À votre avis, est-ce que les photos prises à partir d'un smartphone peuvent également procurer ces sensations?
Tout à fait, je pense, parce qu'on a tous maintenant une certaine éducation et puis intégré tous ces genres d'images. Ben, c'est normal que ça a un effet sur notre perception des images.
Oui, mais même d'autres en plus, certainement, oui, je pense, oui, bien sûr.
Marion Zilio, chargée de cours à Paris 8 et rattachée au labo art et art contemporain, a elle aussi un avis.
Prince a réussi à faire, comme on a pu le voir, d'un selfie un portrait, parce que justement il l'aurait extrait d'un flux. Est-ce que après le selfie est un portrait? Pour moi la réponse était non à la base. Il y a des galeries qui se sont spécialisées dans l'art numérique de plus en plus. Il y a des artistes qui se spécialisent dans la question. Et après, on peut aussi interroger les cultures numériques à partir de la peinture, à partir de l'installation, du dessin. Donc, c'est peut-être pas le médium qui va nous permettre de repenser les technologies. Mais dans tous les cas, le numérique va apporter son flot de nouvelles perspectives, puisque de toute façon, chaque nouvelle technologie apporte un nouveau souffle un peu dans la création, la perception, la manière de percevoir le monde. Peut-être que les smartphones et tout ce qui touche aux réseaux sociaux vont davantage toucher cette classe de gens qu'on appelle les amateurs, qui ne sont pas du coup les artistes. Et eux, qui n'ont pas forcément les codes, vont apporter quelque chose de nouveau, de plus spontané et peut-être plus frais, un peu à la manière de Ron Fancuberta qui dit que la photographie officielle est ennuyeuse et qu'il faut faire un reset et s'attacher plutôt à des formes immanentes au corps social. Toute révolution technique apporte sa révolution.
Moralité, personne ne sait vraiment ce qu'il en est, mais toutes les limites de l'art doivent être repensées.
Merci beaucoup Amandine. Le sous-marin fait une première pause tout en musique avec Soulance et le titre Secoue. We'll be right back. Vous êtes toujours dans le sous-marin, sur les ondes de campus, évidemment. Tout de suite, nous allons vous diffuser une interview réalisée par Thibaut. Ça se passait la semaine dernière du côté de Nantes. Et il a rencontré Alix, qui fait partie du collectif de hip-hop O2N.
Nous sommes en compagnie d'Alix de O2N. Salut.
Salut.
Alors, en préparant l'interview, on a un peu allé voir ce que vous aviez dit à droite à gauche pour travailler un peu parce qu'on est des pros. Et ça complique un peu la tâche parce que vous êtes partout. Il y a eu les couvertures des Inrock, Tsugi, tout ça. Il y a eu Noisey, il y a eu Mono. Alors, le succès critique, ça a toujours été présent. Enfin, il n'y a jamais eu trop de problèmes par rapport à ça. Ouais. Mais là, au final, que tous les médias soient unanimes sur cet album-là, c'est cool ou en fait, c'est pas si important que ça?
C'est pas si important que ça, mais bon, c'est sûr que quand... Bah, ça fait plaisir quoi, quand les gens ils aiment bien. Mais c'est bizarre, après tu as toujours une nature, je ne sais pas si c'est la nature humaine ou si c'est la nature des gars d'O2N, mais nous on cherche toujours ceux qui n'aiment pas. Okay. Non, mais c'est juste parce qu'effectivement, il faut prendre du recul aussi avec les critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, tu vois. Quand, tout au début, c'est vrai qu'on commence à être un vieux groupe en fait. C'est notre quatrième disque, donc c'est vrai que tout au début, t'es vraiment à l'affût, tu vois, tu tapes ton nom sur le moteur de recherche, t'essaies de voir ce qui est tombé et tout. Et c'est vrai que l'avantage de quand tu croules comme ça sous plein de relais, c'est qu'en fait, finalement, tu vois pas tout passer, de temps en temps, t'en vois une, ou, voilà. Donc oui, ça fait plaisir quand même, on va pas dire le contraire. Particulièrement... J.D. Beauvallet, le rédac chef des Inrock, qui est venu de Bristol nous rencontrer pendant 24 heures à Bordeaux. Et tu vois, quand le mec, il se déplace et tout, machin, et qu'il te consacre 3-4 pages, qu'il s'envoie un photographe avec un cheval et n'importe quoi.
C'était un vrai cheval, du coup.
C'était un vrai cheval, Mirabel. on va pas dire le contraire, ça faisait plaisir. Et puis de Tsugi aussi, enfin... Les couvertures, c'est la première quand même pour nous. Enfin, c'est les premières.
En fait, votre dernier album, il remonte à 2011 quand même. Du coup, on se demande si vous avez énormément tourné entre les deux, mais vous préférez plus le live que la production, enfin que de composer.
En fait, on n'a jamais sorti un disque avec des morceaux, tu vois, genre un peu par-dessus l'épaule comme ça. Genre, on va le mettre là, on ne sait pas quoi en faire. Donc après, c'est sûr qu'on fait pas partie des groupes les plus productifs. Je pense pas que ça soit parce qu'on préfère la scène, c'est plus parce que vu que jusqu'à présent, on a toujours tout fait tout seul. Ouais. Ça prend beaucoup de temps et concrètement, c'est vachement dur d'écrire quand tu dois répondre aux mails des gens qui ont pas reçu leur disque à temps, vérifier si les disques sont en bac, appeler ton attaché de presse, machin. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, c'est vrai que tu n'es plus du tout dans un tempo qui te permet d'écrire, quoi.
Et du coup, vous aviez joué à l'Olympia en mars dernier. Et moi, ça m'avait fait marrer. C'était quelques jours avant, vous laissez un message sur Facebook en mode « Hey Bordeaux, si on trouve une date dans un bar, vous êtes chaud. » Et du coup, là, c'est vraiment passé d'un extrême à l'autre de ce que vous pouvez couvrir en termes de salle, passer d'un café-concert à l'Olympia. Donc, je suppose que forcément, les ambiances sont très différentes. C'est quoi ce que vous préférez au final?
C'est une bonne question. Je flippe plus avec les petites salles, en fait. Parce que vraiment, quand t'as des mecs, t'es... À 15 cm de ta gueule, c'est toujours plus direct, quoi. Donc le rapport, il est moins faussé. Alors que quand t'es dans une grande salle, t'es éclairé, t'es machin et tout, tu t'adresses à un espèce de masse un peu, tu vois. Enfin, les gens font qu'un, quoi. Donc voilà.